Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, en direct du Havre.
Georges Quirino.
Et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ce matin dans les grandes gueules du sport, les grandes gueules qui se délocalisent. On n'est pas dans notre studio à Paris, bien au chaud, mais on est quand même pas mal. Ici au Havre, donc au village de la Transat, Café L'Or avec CMA, CGM, c'est le départ de la Grande Transatlantique. On est sur RMC et aussi à la télé sur BFM Normandie ce matin pour le grand départ de cette 17e édition de la route du café à deux, du Havre à Fort-de-France en Martinique, grand départ sur RMC, ce sera tout à l'heure à 14h avec au commentaire Pierre-Yves Leroux que je salue déjà. Salut Pierre-Yves.
Salut Georges, bonjour à tous, bienvenue au Havre.
Merci de nous accueillir. Hein, c'est un peu toi le grand Manitou de la voile sur RMC. Donc partout on va, qu'on va au Sable d'Olonne et tout, on est chez toi en fait. Donc,
vous pouvez vivre en Martinique si vous voulez.
Ouais, pas mal. On va en discuter pour voir si c'est possible. Je disais évidemment grand départ. En tout, je rappelle, c'est 74 bateaux, 148 skippers répartis dans 4 classes. Ça, c'était au départ. Les Ocean 50, l'une des catégories, est déjà partie hier. On va en parler dans quelques instants. Malheureusement, il y a déjà eu quelques chavirages. Tout le monde va bien, on le prévient d'ores et déjà. Vos grandes gueules du sport ce matin. On prévient d'ores et déjà. Arrêtez tout de suite de me regarder pour savoir si je dis bien Wembanyama, s'il n'y a pas un article au bon endroit, au mauvais endroit. Fred Weiss. Bonjour, ça va ?
Bonjour, ça va très bien. Oui. Il fait froid, hein, c'est difficile.
Ah, mais oui, c'est
pour ça. Wembanyama, c'est dur, bien sûr. C'est tôt le matin, bien sûr.
Il fait toute sa carrière dans un gymnase et après, dès que ça sort.
Évidemment, dès que je sors, je ne suis pas bien.
Jérôme Pinot, habitué aux courses, aux petites sorties matinales
Évidemment.
Ouais. Si tu faisais quoi, 6h du matin parfois,
ouais,
ton vélo ?
À ce temps-là, je partais même à 5h quand il faisait chaud comme aujourd'hui.
C'est vrai ?
Ouais.
Incroyable.
Ah oui, c'est un vrai sport, le cyclisme, Frédéric Weiss.
Non, c'est un moyen de locomotion, le cyclisme.
Pas la vitesse. On allait nous. Hein.
Sarah Pitkowski est tout en mitouflé ce matin au départ du Havre. Ça va, Sarah ?
Bonjour, messieurs. Vous allez bien ? Il y en a qui sont quand même un peu dégarnis. Vous n'avez pas froid ce matin ?
Ouais. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Moi, je ne vois pas de quoi tu parles.
Non, bah non.
C'est vrai que. Alors,
J'ai pris qu'un bonnet pour moi, mais voilà.
Si vous nous regardez sur BF Normandie, effectivement, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une quantité capillaire très importante.
T'as bien posé tes mots quand même.
Au départ, j'ai essayé de ne blesser personne.
Et encore, Pierre-Yves Leroux a sorti la cassette.
Les grandes gueules du sport, jusqu'à midi, au programme, émission spéciale, évidemment. On sera avec nos navigateurs et navigatrices qui vont participer à cette traversée de l'Atlantique à deux. On sera avec Armel Lecléache, avec Violette d'Orange, Sam Davis notamment, qui vont prendre le départ. Le maire du Havre, Édouard Philippe, sera avec nous également. Il y a de la voile, évidemment, aussi à 10h dans le vestiaire. On sera avec Johan Richaud, mais Corentin Auro qui vont prendre le départ sur l'Imoca Paprec Arkea, traverser l'Atlantique à deux dans un espace réduit. Vous imaginez, les amis ?
Bah, pas avec Fred Weiss.
J'allais dire pas avec Jérôme Pinot, parce que c'est insupportable. Pendant 12 jours ensemble.
Ouais, toujours ensemble, c'est faisable. Sur un bateau, un peu moins.
Ouais,
mais a priori, ils se croisent pas beaucoup. Hein.
Ouais, tu penses ?
En tout cas, y en a, pendant qu'un navigue, l'autre dort.
Ouais, mais y a pas
vous pourriez quand même essayer de.
Je suis d'accord, mais il n'y a pas 200 mètres carrés, Sarah, quand même.
Non, je te confirme.
On doit se croiser de temps en temps.
Non, mais Fred, il peut même pas rentrer dans une cale.
Fred a surtout l'habitude de vivre dans des grands appartements de 200-300 mètres carrés.
On se posera la question. Donc, comment créer une cohésion d'équipe, les amis ? Dans quelques instants, on va parler de Ligue 1 également, puisque l'OM a été battu à Lens hier soir et n'est plus leader, c'est Paris qui a repris les commandes. Faut-il s'inquiéter après la semaine marseillaise? Sur le ring à 11h, Victor Wembanyama affole la planète depuis le début de la saison NBA cette semaine.
Victor comment?
Wembanyama, il joue ce soir en plus à 19h contre Brooklyn. C'est bien, c'est un horaire qui convient à tout le monde. Wemby peut-il devenir le plus grand sportif de son époque? Oui, on va se poser cette question. Vous votez sur le compte X des GG du sport. Punchline, le combat pour le titre UFC de Cyril Gane arrêté hier parce que le Français a sans le vouloir mis les doigts dans l'œil de son adversaire. Surréaliste. Peut-il s'en relever? On sera à Abu Dhabi, on aura toutes les informations. Et puis sur le buzzer, Lamine Yamal provoque le Real avant le Classico à 16h au Bernabéu. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, RMC vous offre des places pour le match de Ligue des Champions PSG Bayern Munich. On est sympa quand même. Le 4 novembre, Parc des Princes. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Vous assistez à nos émissions avant le match, ensuite direct sur le parc avec la personne de votre choix, puis retour à RMC dans les coulisses de l'after. Dès que vous entendez ceci, Et voilà, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Vos places PSG Bayern se gagnent uniquement sur RMC. 32-16 pour participer avec les grandes gueules du sport à cette émission. D'abord, Pierre-Yves Leroux qui suit cette transat pour nous. Une catégorie, je le disais, déjà partie hier. C'est les Ocean 50, c'est les multicoques de 50 pieds, hein, c'est ça. 10 embarcations.
15 mètres sur 15.
15 mètres sur 15, pour avoir une idée bien précise. 10 embarcations au départ. 3 ont chaviré cette nuit. Tout va bien ?
Tout va bien puisque tous les skippers ont été élitreillés, mais c'est quand même 3 accidents importants en ce début de course. Ils avaient décidé, cette classe avait décidé de partir avant le coup d'envoi normal aujourd'hui en milieu de journée pour justement passer le gros coup de vent qui va avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Malheureusement, les conditions en mer étaient déjà très costauds avec des creux de 2 mètres et donc on a 3 équipages qui ont chaviré, qui ont été élitreillés. Les derniers, c'était à 6h du matin, Mathieu Perrault et Jean-Baptiste Gelé. Tout le monde est à terre désormais, mais évidemment il y a de la casse. Les bateaux, il va falloir maintenant voir dans quel état ils sont. Donc c'est un début de course quand même un peu anxiogène parce que tous les marins qui vont partir tout à l'heure à partir de 14h, ben, ils vont avoir ça aussi en tête, ce qui s'est passé dans cette première nuit.
Exactement. Tiens, on accueille déjà en plateau Charlotte Yvain qui est avec nous. Salut Charlotte.
Bonjour.
Deuxième, on va allumer son micro, le micro de Charlotte. Voilà. On refait. Bonjour, salut Charlotte.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Charlotte.
Voilà, bonjour Charlotte. Salut, deuxième fois. On est dans la bienveillance ici. On va parler dans quelques instants avec toi. On rappelle, deuxième de la dernière solitaire du Figaro. La pépite de la voile, on nous a dit. C'est pour ça que tu es là, hein, voilà, tout simplement. Mais d'abord, on va prendre des nouvelles. Ce que je vous propose de Erwan Leroux, skipper de Coesio, donc l'une des embarcations qui a chaviré cette nuit. Pierre nous en parler. Il est avec nous, Erwan. Bonjour, Erwan.
Bonjour, NGG.
Et merci d'être avec nous. C'est quoi le sentiment, là, Erwan? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour votre embarcation?
Ben, écoute, on est rentré dans une zone plutôt ventée. Enfin, voilà, c'était prévu sur les fichiers météo et plutôt instable. Et en fait, l'instabilité était bien plus importante que ce que nous donnait la météo, puisqu'on a eu des molles à peu près à 18 nœuds, donc une trentaine, quarantaine de kilomètres heure, et puis des grosses risées à 40 nœuds. Et en fait, on s'en est fait prendre dans une, et avec un vent qui s'est beaucoup ouvert sur notre bateau. Et du coup, bah, même si on était deux, on était aux écoutes, Audrey et moi, on a lâché toutes les écoutes qu'il fallait, mais en fait, avec, je pense, une vague ou je sais pas quoi, mais en tous les cas, c'est allé à une vitesse complètement incroyable où en fait, le bateau s'est fait jeter sur le côté et donc a chaviré sur le côté, et voilà, et nous avec. Et ça a été une vitesse assez folle puisque, à peine qu'on était sur le côté, qu'on était déjà à l'envers, on a entendu le mât casser. Et en fait, il était déjà... Moi, j'avais de l'eau déjà jusqu'à la taille. Et il était temps pour nous de rejoindre la coque centrale pour éviter de laisser traîner les pieds dans l'eau, pour éviter de se faire happer par la casse du mât et de la casquette et de la baume. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Et puis, bah écoute, après, on s'est réfugié dans la coque centrale. Et à la base, on voulait pas se faire élitreiller, mais en fait, le cross nous a informé qu'en fait, on dérivait dangereusement vers Guernesey.
D'accord.
Et donc, il fallait, voilà, ça pouvait être dangereux. Et donc, en fait, on a préféré écouter le cross et puis écouter la direction de course qui nous a poussé donc d'évacuer. Et donc, on s'est fait élitreiller.
Bon, grosse et voilà, quand même, Erwan, non? Donc, Audrey, c'est Audrey Augereau, hein, qui était avec toi sur le bateau. C'est une grosse frayeur, là, quelques heures après. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi? Il y a encore un peu le stress, quand même. On a du mal à redescendre de ce qui s'est passé.
Bah ouais, et puis surtout que, on voit le bateau dériver sur les cailloux. C'est ce qui fait le plus mal, finalement. Parce qu'un bateau à l'envers, au milieu de la mare, c'est pas très grave, quelque part. Mais un bateau qui, là où on a chaviré, c'est le plus mauvais endroit qu'il faut, quoi. Donc, en fait, c'est juste 5000 au vent de Guernesey. Et en fait, le bateau, il a atterri, voilà, il est dans une baie à Guernesey, à se faire drosser par le vent de nord-ouest et puis la houle qui va avec. Donc voilà, on va aller voir l'étendue des dégâts incessamment sous peu, puisque vers 10h, on aura on aura un premier état des lieux de ce qui est en train de se passer.
Bon, l'important c'est que vous soyez tous les deux sains et saufs. Merci Erwan Leroux d'avoir été avec nous ce matin, skipper de Coesio qui a chaviré cette nuit. Et bon courage pour ce qui vient, là, les heures qui viennent, et d'aller voir l'embarcation également. Merci d'avoir été avec nous Erwan.
Merci à vous. À bientôt.
Je rappelle, on est avec les grandes gueules du sport ici en direct du Havre pour le départ de la Transat Café L'Or. Charlotte Yvain, skipper massif. Enfin, tu prends pas le départ de cette Transat aujourd'hui. Je disais deuxième de la dernière solitaire du Figaro. Quand t'entends tout ça là, quand même, c'est la voile, c'est une belle leçon d'humilité aussi à chaque fois. On peut être parti depuis quelques heures, tout peut basculer en quelques secondes. Il faut être conscient de ça, Charlotte.
Bah ouais, c'est sûr. Bah on pense fort à Erwan et Audrey et puis les deux autres équipages qui ont chaviré. Hein, ça fait quand même un petit nœud dans le ventre de les entendre, d'entendre Erwan témoigner de ça. Je pense que c'est un truc qu'on souhaite à personne, hein, de voir son bateau partir sans nous et s'échouer sur les rochers. C'est quand même pas. Voilà, donc c'est sûr qu'on est toujours soumis aux éléments. On subit parfois un peu le vent et il faut rester humble par rapport à ça, ouais, c'est sûr.
Parce que les conditions, là, alors on le sait, cette semaine, il y a une tempête qui est passée sur la France, la tempête Benjamin. Tout a été un petit peu compliqué. Une course est partie finalement. On a anticipé le départ pour cette catégorie. Mais les conditions restent un peu. Je crois que j'ai entendu utiliser l'adjectif tonique il y a quelques jours. Là, on est au Havre, il y a le soleil qui sort et tout. Ça a l'air d'aller quand on est là, mais quand on part au large, ça va être compliqué quand même.
Bah ouais, bah ça y est, on est dans un régime de météo automnale, hein, donc c'est l'enchaînement des dépressions qui sont plus ou moins fortes. Comme Benjamin cette semaine, c'est une grosse tempête, mais il y a d'autres dépressions qui suivent et qui sont plus ou moins importantes. Et là, bah c'est sûr qu'ils vont rencontrer des conditions toniques, bien musclées, avec de la mer dans la manche pour partir. Même ce soir, ça va être encore un peu tonique, quoi.
Fred, Weiss.
Oui, moi, ma question, c'est comment tu pars après ce qui s'est passé hier? Comment tu te dis, allez, j'y vais, c'est pas grave, comment on se motive, comment on y va? Moi, j'ai déjà peur d'aller sur un bateau, alors j'imagine, après ce qui s'est passé hier.
C'est ça, c'est quoi le mental des navigateurs et navigatrices, en fait? Enfin, tu prendras pas le départ aujourd'hui, mais forcément, il se passe quoi dans la tête de toutes les personnes qui vont s'élancer?
Bah, c'est sûr qu'il y a un petit stress, hein, de partir en course dans des conditions assez fortes et engagées, c'est toujours un peu stressant. Parce que, bah, d'abord, pour bien figurer sur une course, il faut déjà la terminer. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une grosse part de préservation du matériel, je pense, de moins dans le début de cette course. Et voilà, il va falloir qu'ils gèrent tous leur stress, préserver le matériel au moins pour sortir de la manche.
Préserver le matériel.
Bah, ça veut dire réduire les voiles, ça veut dire faire un peu plus attention, anticiper les potentiels risés. Faire plus calme, on va dire.
Profil bas pour commencer.
Pour pouvoir attaquer plus tard. Et la course, ça va pas forcément se jouer là. Elle peut se perdre là, mais elle peut pas se gagner là, quoi.
Okay. Sachant que cette année, sur cette édition, il n'y a pas de routage. Donc en fait, c'est vraiment véritablement les choix des skippers.
Le routage, on rappelle.
C'est une aide extérieure pour.
Depuis la Terre, les navigateurs.
Donc comme le disait Erwan, il disait ce qu'il a vécu, ce qu'ils ont vécu n'était pas ce qui était prévu.
Et c'est ça.
Donc en plus de ça, aujourd'hui, est-ce que tu penses que le risque est forcément plus augmenté ou le fait d'avoir du routage permet peut-être éventuellement d'anticiper des changements de météo très rapides?
Je pense que là, on est quand même assez proche après le départ, donc ça n'aurait pas changé grand-chose qu'il y ait quelqu'un à terre qui leur donne des indications. Je pense qu'ils avaient les fichiers météo les plus récents et en fait on peut jamais être sûr à 100% de la météo. On sait déjà pas quel temps il va faire cet après-midi, donc sur l'eau à 24h, 48h, c'est super difficile de prévoir, surtout quand c'est incertain et irrégulier comme ça. Mais effectivement, ils ont un rôle de plus à bord, une compétence de plus qu'ils avaient déjà sûrement la plupart.
Oui, mais en tout cas, une prise de décision
plus importante et qui dépend que d'eux, quoi.
On est avec Charlotte Yvain, skippeuse massif, avant le départ de cette Transat Café L'Or. Deuxième de la dernière solitaire du Figaro, je rappelle. Première femme sacrée championne de France, élite de la course large, il faut le dire quand même, et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle a 29 ans. Pierre-Yves, c'est une question pour Charlotte.
Charlotte, elle a impressionné déjà tout le monde, tout le plateau. Avec ses dernières performances, il suffit de discuter avec les marins qui sont ici. Charlotte, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'autour de nous, on a beaucoup de monocoques. Hein, ce sont les multicoques qui sont partis. Il en reste plus que 4. Ce sont les gros des ultimes qui sont habitués à faire le tour du monde. Ça devrait passer. Et sur les monocoques, il y a moins ce danger de chavirage, évidemment, avec cette pille qui.
Ouais, ouais, carrément. Bah, les Ocean 50 qui sont partis hier, ils sont justement partis hier parce que c'est des bateaux super, super volages, super instables. Bah, on a bien eu la confirmation cette nuit que c'était voilà, des bateaux qui se retournent facilement. Et les bateaux qui vont partir aujourd'hui, c'est des monocoques, donc ils ont une quille. Ils ont du plomb sous le bateau qui leur permet d'être plus stable à l'endroit.
D'accord.
Donc c'est pour eux un peu. Il n'y a pas le risque de se retourner. Par contre, il y a quand même le risque d'avoir d'autres casses, de voiles, de mâts, de plein d'autres choses. Mais ils risquent pas de se retourner comme les Ocean 50.
Mmh. Non, c'est dur pour moi aussi. Il y a un des Ocean 50 qui a déchiré sa grande voile pendant la nuit et qui est également rentré au port. C'est le bateau
Viabilis. Pour réparer, oui. C'est Viabilis.
Non, mais c'est juste. Une constatation que c'est bien, bel et bien, c'est pas les plaisanciers, quoi. C'est les compétiteurs qui partent.
T'avais un doute?
On est en train d'expliquer la voile à un mec de Limoges. Il faut bien expliquer que c'est une compète et qu'aujourd'hui, ils ont la peur au ventre, certainement. Ils vont jouer avec les éléments. Mais moi, pour avoir côtoyé certains d'entre eux, ils sont à part. Ils sont différents, vraiment différents dans la préparation mentale.
Mais pas plus tête brûlée, mais ça fait partie de leurs éléments.
Cette phrase, je la comprends pas, parce que pour moi, vous êtes des têtes brûlées. Pour aller comme ça, tout seul, affronter l'océan, il faut. Là, dans ce cas de figure, vous êtes deux, mais parfois seul, je ne comprends pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre le risque, le danger, le mât qui est extrêmement haut, parce qu'on s'en est rendu compte ce matin aussi. Pourquoi ?
Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui te motive, toi, à t'attaquer à l'Atlantique, là, par exemple ? C'est particulier, quand même, effectivement. On n'est pas tous constitués comme ça.
Bah, c'est sûr que là, ça fait un peu peur, les conditions météo. Hein. Je pense que bon, tous aussi fous qu'ils sont, ils ont quand même un peu le stress aujourd'hui de partir dans ces conditions-là. Mais après, il y a. Bah, aller se confronter aux éléments, justement, on passe des moments super incroyables en mer pendant nos navigations, donc c'est bah voilà, je pense qu'on va chercher ça, on va chercher bah la compète aussi comme dans tous les sports. Et puis la confrontation aux éléments, ouais, je pense que c'est ce qu'on va rechercher.
La confrontation aux éléments, elle va avoir lieu sur cette Transat Café L'Or. Merci Charlotte Yvain, d'avoir été avec nous, skippeuse massif. Tu vas rester à terre cette fois-ci, mais tu vas prendre quand même quelques informations, je pense, pour savoir ce qui va se passer peut-être pour d'autres fois, non, pour prendre le départ.
Bah oui, ouais. Complètement. Je vais aller saluer les copains qui partent sur la course, et puis moi je vais suivre ça de près derrière l'ordinateur pour repérer le terrain.
Ouais, comme nous, en fait, on sera sur le virtuel regatta.
Ouais, c'est ça, sur la carto.
Merci Charlotte. Merci d'avoir été avec nous, Charlotte.
Merci.
Musique de la Ligue des Champions, vous avez compris, c'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places PSG Bayern le 4 novembre à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. On est toujours au Havre, on a les IMOCA devant nous et ce port du Havre avec les différentes embarcations qui sont devant nous, magnifique avec ce ciel bleu, un petit peu nuageux, mais des conditions idéales. Ce sera un petit peu moins sur la mer dans quelques instants. L'OM a perdu hier, c'est du football pour la deuxième fois de la semaine et n'est plus leader. Le PSG a repris les commandes de Ligue 1, faut-il s'inquiéter de la semaine marseillaise ? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Havre.
Georges Quirino.
Et oui, en direct du Havre pour le départ de la Transat Café L'Or. On est au village avec CMA CGM dans notre studio des grandes gueules du sport. On est aussi en direct à la télévision sur BFM Normandie. Si vous voulez nous voir à l'image, si vous voulez voir Fred Weiss impressionné par la hauteur des mains.
Oui, c'est très impressionnant. Non, c'est vrai, bizarre, mais ça m'impressionne.
Première fois que tu vois des Formule 1 des mers.
Ah oui,
c'est impressionnant,
bien sûr,
franchement.
Oui, c'est très impressionnant.
Ouais. Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski sera là l'habitude.
Bah oui.
Sarah, c'est une vieille louve de mer.
C'est la routine.
Oui, c'est la routine.
On aura des invités de marque dans quelques instants. Je vous rappelle, ce sera le départ à 14h. Tout à l'heure, vous ne raterez rien sur RMC. Tiens, il y a Édouard Philippe, le maire du Havre, qui va nous rejoindre dans quelques instants également. Et les différents skippers et skippeuses qui vont s'élancer. Mais depuis hier soir, la Ligue 1, un nouveau leader, car l'OM a trébuché pour la deuxième fois en 4 jours.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Le coup d'envoi est donné par un ancien Marseillais, Florian Thauvin. Le ballon mis en retrait avec Malang Sarr et directement Samson.
Timothy Weah, le ballon, Greenwood, à la but. Mais elle est tellement bien placée, cette balle de Greenwood. Et ça fait 1-0 pour l'OM à la 17ème minute. Penalty. Penalty pour Lens. Première période au bout de 22 minutes. Antoine Edouard qui s'élance face à Mouillot. Et Panenka, il avait au fond. Oh, c'est osé. Un partout. C'est parti au premier poteau. Déviation. Et le but. Et ça rentre. Alors, on va regarder qui a mis ce ballon pour défiler. Mais c'était une passoire là. La défense de l'Olympique de Marseille.
C'est Pavard. Oh là là, Pavard. Le calvaire de Pavard. Qui a déjà marqué contre son camp face au Sporting. Qui a concédé un pénalty ce soir.
Et c'est terminé. Victoire du Racing Club de Lens. 2 buts à 1, sale semaine, ça c'est sûr, pour les joueurs de Roberto De Zerbi.
Et oui, sale semaine, coup d'arrêt dans la dynamique marseillaise. Deux défaites en deux matchs, mercredi en Ligue des Champions au Sporting. Et en Ligue 1 hier soir, les Olympiens ont été renversés à Lens de Buzyn. La faute notamment à Benjamin Pavard, responsable sur le pénalty de l'égalisation et auteur d'un but contre son camp. Marseille resté sur 5 victoires de rang en championnat. Marseille n'est plus leader, dépassé par Lens, l'adversaire d'hier soir. Et le PSG vainqueur à Brest, 3-0, qui reprend les commandes. Les GG, je vous pose la question, oui ou non, faut-il s'inquiéter de la semaine marseillaise? Jérôme Pinault.
J'ai envie de dire oui.
Sarah Pitkowski.
Moi, je suis plutôt sur le non.
Fred Weiss.
Moi, je suis clairement sur le non.
On vous attend évidemment au 32-16 pour réagir. Tiens, je vous propose qu'on écoute Mehdi Benassia à l'issue de la rencontre hier parler de cette situation. Il est inquiet ou pas pour l'OM?
Ouais, non, mais je suis pas inquiet du tout, non. Et des fois, des victoires, par le passé, on a eu des victoires où parfois on dit bon, on prend, on est content parce que peut-être que justement dans le jeu, c'est pas toujours ce que le coach souhaite. On a parlé l'année dernière, je me rappelle après une défaite contre Paris, on était un petit peu énervé parce que justement on avait préparé un plan, on avait rien mis en place. Justement, quand je vois ce genre de match, je me dis que oui, on n'a pas eu beaucoup de réussite, mais dans le jeu, dans les idées, dans ce qu'on a voulu mettre, c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place avec beaucoup de personnalité, beaucoup de mouvement, et comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de choses agréables à voir. Après, voilà, il y a, de ma part en tout cas, il y a zéro inquiétude pour moi.
Oui. Zéro inquiétude, nous dit Mehdi Benassia après cette défaite, la deuxième en deux matchs après la Ligue des Champions, la Ligue 1, donc pour l'OM qui n'est plus leader ce matin. T'es un peu inquiet, Jérôme, pour l'OM ?
Je suis un peu inquiet pour deux choses. C'est un club qui ne sait pas perdre. On l'a vu l'an dernier, dès que ça perd un peu trop souvent, on fabrique des crises où on va dans la crise, alors qu'il n'y en a pas. Mehdi Benassia nous parle beaucoup du jeu. Hier, pendant 20 minutes, on a vu une très très belle mise en place, des consignes respectées, un jeu qui va très vite devant.
Comme à Lisbonne, finalement, ça avait bien commencé.
Mais derrière, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu plus faible du côté de l'OM. On l'a vu hier, on a un Benjamin Pavard qui est arrivé, une grosse recrue cet été, et qui est en grande difficulté. On a parlé du pénalty concédé hier, on a le mauvais alignement à Porto, on fait contre son camp, deux buts contre son camp en deux semaines. C'est quand même un pilier de cette défense, Benjamin Pavard, et là, il est en train de prendre un peu l'eau. Et puis on le sait, aller gagner à Lisbonne, c'était quand même dans le plan de l'OM. Hier soir, prendre des points à Lens était essentiel pour maintenir le club, rien que au niveau du Paris Saint-Germain. C'est aussi mental, mais c'est quelque chose
d'important. Poser la question hier, si une victoire était primordiale pour ça.
Alors,
aussi
primordiale,
pour la dynamique marseillaise, notamment.
La défaite d'hier n'est pas catastrophique, en revanche la semaine peut-être inquiétante quand on voit la défense de l'OM prendre l'eau aussi souvent.
Ouais, t'es quand même inquiet sur la défense, Sarah. Toi, t'es pas trop préoccupé?
En tout cas, je me dis qu'il y a des éléments pour ne pas rentrer dans une crise, comme tu disais, Jérôme. C'est que ces deux matchs-là, ce sont des matchs à l'extérieur. Alors peut-être que les ambitions étaient de sortir avec un match nul, mais est-ce que les ambitions réelles, c'était d'aller gagner ces deux matchs à l'extérieur?
Ah bah, quand on voit en tout cas les entames de match, comme vient de le dire Jérôme,
il y a une forme d'ambition, mais si tu essaies de rester pragmatique et la fameuse comptabilité des points que tu fais à la fin de l'année, tu dis ok, si je prends mes 3 points à domicile, si je vais chercher des matchs nuls,
j'espère qu'ils sont pas dans ce genre de calcul. Justement, si t'as de l'ambition, t'as pas ce genre de calcul.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te raccroches à des choses qui sont pragmatiques, deux matchs à l'extérieur, les victoires n'étaient peut-être pas attendues, donc ne mettons pas le feu là où il n'y en a pas.
Ne pas mettre le feu là où il n'y en a pas. D'accord, Sarah, sauf que on peut aussi
te souvenir que tu as battu le PSG chez toi. Enfin, je veux dire, tu peux aussi revenir sur des choses.
À quoi bon battre le PSG si tu perds des points contre Lens, qui est un concurrent direct?
Lens qui est passé devant en classement, oui, frère.
En fait, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que la vie d'un club n'est pas un long fleuve tranquille. Et justement, on a des ambitions du côté de l'OM. On a envie de gagner des matchs. On a envie. Et là, malheureusement, on donne la même réponse avec ça, mais on n'est pas du tout d'accord. Pour moi, on va à l'extérieur, mais on veut gagner. On est l'OM, on veut gagner. On veut pas être pragmatique. Alors, déjà, pragmatique, Atlantique et Marseille, je suis pas sûr que ça soit pas
mais
ce que je veux dire, c'est que c'est logique que par moment ça se passe mal, et c'est normal qu'il y ait des accros. Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait qu'il faut apprendre à perdre, mais c'est peut-être le moment, justement. C'est peut-être le moment, vu le discours de Benatia à la fin.
Bien sûr.
J'ai l'impression qu'ils sont en train d'apprendre à perdre. Et apprendre à perdre pour gagner, c'est hyper important. De temps en temps, un mauvais résultat peut être très bénéfique.
Le discours de Benatia, Fred, il est aussi dû au simple fait que le calendrier à venir pour l'OM peut te permettre de revenir tout de suite dans la danse. On va recevoir Angers, on va Auxerre. Et on reçoit Brest avec l'Atalanta.
Et donc on se rappellera même plus de ces petits accros.
Il y a victoire,
bien évidemment. Mais tu parlais de Pavard.
Rappelez-vous à Auxerre l'année dernière.
Pavard, c'est un pilier de cette équipe maintenant depuis son arrivée. Ben, on sait que c'est un joueur qui est capable de se relever de ça, et on sait qu'il va pas faire de.
Avant cette semaine, on n'était pas inquiet pour Benjamin Pavard.
Mais l'avantage, c'est que c'est Pavard.
C'est un vrai avantage que ce soit Pavard, pour moi. C'est quelqu'un qui mentalement va pouvoir se surmonter ça, qui va passer à autre chose, et qui, au contraire, il a assumé ce match en disant c'est de ma faute, je vais faire mieux la prochaine fois, et on sait qu'il va le faire. Donc pour moi, c'est juste une petite anicroche dans le programme.
Dans le jeu ultra offensif et qui repart de derrière et très ambitieux de De Zerbi, on a besoin d'un Pavard, d'un Medina, d'une défense marseillaise qui repart très bien de l'arrière mais qui sait très bien défendre.
C'est pas une piqûre de rappel, ça, justement, pour Pavard.
Deux gros boutons, quand même.
Deux gros boutons, justement. Moi, je trouve ça très bien que d'avoir des boutons à ce moment de la compétition, effectivement.
Oui, mais c'est des boutons de travail, parce que quand tu vois les deux premières mi-temps de ces deux matchs-là, tu vois quand même un OM que tu n'avais pas l'habitude de voir.
Cet OM est plutôt plaisant.
Tu as quand même des éléments de se dire que c'est pas le même, c'est pas des défaites comme l'OM de l'année dernière, en fait.
Non, mais
c'est des défaites où ils sont devant au score, en plus.
Non, mais exactement, il y a des choses positives, et c'est vrai que Fred l'a souligné il y a quelques instants, le discours est intéressant aussi. On a posé la question, on se posait la question cette semaine dans les différentes émissions sur RMC, est-ce que Marseille sait perdre après ce qui s'est passé au Sporting. Là, Mehdi Benatia, le directeur du foot de l'OM, vient au micro derrière, il dit on n'est pas inquiet, ne vous inquiétez pas, on a vu des bonnes choses, on a été dominateurs. Non, mais on sent, on en a déjà parlé un peu dans les GG du sport, on sent quand même que Marseille a un peu appris des erreurs de com' peut-être de l'an passé pour dire tranquille, on y va, on va voir.
Sachant que c'est deux défaites, dans ces deux matchs, il y a des faits de match, il y a des faits d'arbitrage. Qui pouvaient par le passé enflammer un président, enflammer un directeur du sport, là pas.
Pour ça pourrait être de la corruption ou comme ça.
Par exemple, hier, il n'y a pas eu ces réactions-là. Alors, effectivement, c'est plutôt encourageant, dans le sens on apprend à passer ses défaites.
Mais pour gagner, il faut apprendre à passer ses défaites aussi. Je pense que c'est au contraire fondateur de perdre ce genre de match. Mais par contre, il faut réagir dans la foulée.
Il faut une belle réaction de suite pour pas se perdre. Et là c'est dès dimanche prochain, Vélodrome, face à Angers, qui devrait être un match pour se redonner confiance.
Bien sûr.
Faut-il s'inquiéter de la semaine marseillaise, de match de défaite, alors que tout allait bien depuis quelques temps? Tiens, on va écouter d'abord Jérôme Rouli réagir, le gardien de but marseillais, après la rencontre hier.
Je pense qu'après, on a fait des bonnes choses sur les deux matchs. L'unique chose négative, c'était les résultats, malheureusement. Mais après, si on regarde vraiment les matchs à Lisboa et les matchs aujourd'hui, on a dominé complètement l'équipe contraire, à 11 contre 11. Il faut être un peu plus tranquille dans la partie offensive. On doit améliorer un peu là. Mais oui, je pense qu'on est dans le bon chemin.
Je pense qu'on est dans le bon chemin, nous dit Jérôme Rouli. Tiens, Xavier, supporter marseillais, nous appelle au 32-16. Salut Xavier.
Salut équipe, ça va, vous allez bien?
Salut Xavier.
Ouais, écoute, on est ici au Havre pour le
moins chaud que toi, je pense.
L'or. On n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la température marseillaise, mais on est pas mal quand même. Bon, toi, t'es inquiet après cette semaine. C'est vrai que tout était beau là depuis quelques jours. L'enchaînement, on rappelle, de 5 victoires en Ligue 1 notamment. Est-ce qu'il y a un petit début d'inquiétude ce matin, ou t'es comme les joueurs et les dirigeants ce matin?
Non, je suis absolument pas inquiet. Je suis absolument pas inquiet. Je suis vraiment, moi, j'ai regardé les deux matchs. Donc, si tu veux, quand tu regardes l'OM, t'es forcément très attentif au moindre détail qui peut arriver pendant un match. Je ressors de ces deux matchs avec à chaque fois vraiment beaucoup d'interrogations, en me disant mais putain, comment on a fait pour les perdre? Le football qu'on pratique, il est plus qu'encourageant. Enfin, franchement, je préfère.
Mais
c'est
un peu plus vrai à Lisbonne qu'hier, quand même.
Ouais, enfin, quand même, les 20 premières minutes.
Ah oui, y a d'accord. Une équipe, mais ça dure 90 minutes un match.
Ouais, mais alors je suis d'accord avec toi, mais maintenant, on n'aura pas des coups du sort comme ça tous les matchs.
Non, bien sûr.
Franchement, faut analyser un petit peu les buts qu'on prend. Hier, oui. Le pénalty, il arrive sur 4 contre favorables. Pavard, il a pas de chance, il se retourne, pénalty. L'autre, il tire son corner au premier poteau, ça passe entre 3 joueurs, but contre son camp. Les buts à Lisbonne, c'est vidéo gag. Honnêtement, les gars, moi j'entends. Alors la semaine dernière, vous faisiez une chronique comme quoi on jouait le titre, et maintenant, il faudrait qu'on s'inquiète. Moi, quand je vois.
Ah non, mais on se pose la question. On se pose la question. On se demande comment il faut accueillir cette semaine, finalement, en fait. C'est un peu ça la question.
J'aimerais faire passer un message à beaucoup de gens qui se disent supporters marseillais aussi. Arrêtez de tirer sur un joueur à chaque fois. C'est bon, moi, j'ai jamais vu un mec aussi poissard que Pavard sur 2 matchs. C'est vraiment des manques de réussite terribles. Et à côté de ça, on essaye de construire du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on veut à l'OM? Est-ce qu'on veut, parce que là, j'imagine qu'on va glorifier Pierre Sage. Ça va, on défend dans les 40 mètres, on est solide et on mise sur des coups de pied arrêtés. Non, on joue au football, c'est très bien. Et vous allez voir qu'en jouant de cette manière, on va gagner beaucoup plus de matchs que ce qu'on va en perdre. Et à la fin, on sera pas loin des objectifs. Et si ce n'est qu'on en atteindra peut-être des objectifs qu'on n'avait pas forcément espérés. Moi, honnêtement, je sors de ces deux matchs en me disant, ben merde, on a perdu, ok, je suis frustré.
Mais il y avait la place.
Mais attends, mais tu rigoles. Ouais. Est-ce que vous voyez les buts qu'on marque? Vous voyez les actions qu'on développe?
Bien sûr. Ah ben pour le coup, on l'a dit effectivement. Jérôme le disait, les 20 premières minutes à Lens et même la première mi-temps au Sporting a été très encourageante et même très surprenante. Hein, au Sporting, on avait vu franchement du jeu en Ligue des Champions. Ça jouait très très bien pour l'OM de Zerbi. On était là pour dire aussi que c'était peut-être même le plus beau OM de Zerbi qu'on avait vu depuis le début de son mandat. Merci Hervé d'avoir composé le 32-16 supporter marseillais. Pas inquiet donc sur la semaine marseillaise. Voilà, pour le football. Je rappelle donc Paris est leader ce matin et nous on va continuer de parler de voile puisqu'on est, je rappelle ici, au départ de la Transat Café L'Or au Havre avec CMA-CGM. Dans quelques instants, on va voir les skippers et les skippeuses qui vont prendre la mer, le large, et on sera avec le maire du Havre, Édouard Philippe, dans quelques instants avec nous dans les Grandes Gueules du Sport. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport en direct du Havre.
Georges Quirino.
Les Grandes Gueules du Sport, oui, en direct du Havre. Magnifique ciel bleu, là. Le soleil qui est en train de sortir. On a les IMOCA devant nous pour le départ de la Transat Café L'Or. On est au village avec CMA-CGM. On est aussi en direct à la télévision sur BFM Normandie pour le grand départ de cette 17e édition de la traversée de l'Atlantique. Ce sera à 14h. Fred Weiss, très envie de monter en haut d'un mât. On verra tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait éviter la casse quand même.
C'est justement les bateaux qui n'ont pas très envie.
Jérôme Pinault est là. Sarah Pitkowski aussi. Et on est rejoint par le maire du Havre, ancien Premier ministre. Édouard Philippe est avec nous dans les Grandes Gueules du Sport. Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour.
On va allumer votre micro.
Bonjour.
Bonjour. Je vous préviens, c'est les Grandes Gueules du Sport. Il n'y a pas Alain Marchal et Olivier Truchot là, ici.
Ouais, c'est plus gentil de me le dire maintenant, mais j'avais compris.
C'est un basketteur, un cycliste, une joueuse de tennis. D'ailleurs, le départ de la Transat Café L'Or, Édouard Philippe, pour vous, c'est un peu... Et pour les Havrais, c'est un peu la Coupe du Monde, non? Dans ce que ça peut attirer comme spectateur, la popularité que ça a ici, ça représente quoi?
Bon, c'est assez bizarre parce que pour les marins, c'est le départ de la compétition. Donc pour eux, la veille et les quelques jours qui précèdent, c'est un moment de concentration, de préparation. Bon, pour les Havrais, c'est pas exactement ça. Pour les Havrais, c'est plutôt un moment de fête, quoi. Donc on met à l'honneur les produits locaux, hein. Et puis on découvre les produits de la Martinique, puisqu'on aime bien partager et fraterniser.
Ouais.
Donc c'est un moment de fête, c'est très sympa. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Hein. On fait plusieurs centaines de milliers de personnes. Et l'ambiance est extraordinaire. Franchement, c'est assez. Et en ce moment, voir une foule. Hier, j'ai passé ma journée sur le village hier. Voir une foule en ce moment où tout le monde a le sourire, où personne s'engueule, où personne fait la gueule.
Ça fait du bien en ce moment.
Ça doit vous faire du bien aussi à vous, monsieur le maire, qu'on vous dise aujourd'hui merci, c'est sympa cet événement. Parce que en temps normal, c'est pas toujours le cas, surtout en ce moment.
Non, mais vraiment, l'ambiance est bonne ici. Et puis les gens sont contents et puis partagent un moment de passion et de découverte. Enfin, c'est chouette.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de vous poser la question, c'est le sport. Le sport rassemble, le sport permet effectivement ce genre de rassemblement entre les personnes. Mais pourtant, le sport dans la société, et notamment au gouvernement, on s'arrache un peu les cheveux quand même.
Et on s'en...
parle pas de cheveux là.
On s'en fout.
Non, c'est vrai qu'on parle pas de cheveux là.
On est pas là pour parler du gouvernement. En revanche, je suis d'accord
mais
avec
la
vous.
La place du sport doit remplir quelque chose de plus important.
Parce que ce que vous dites là, on l'a entendu aussi l'été dernier pour Paris 2024 et pour tous les grands événements, le Tour de France. Il faut être conscient sur ce que ça apporte.
Mais bien sûr, bien sûr. Exactement. Mais le sport est à tous égards formidable. Il est merveilleux en termes de santé, il est merveilleux en termes de prévention pour la santé, il est merveilleux en termes de lien social, de respect des règles, de compréhension de
plein
de choses.
Mais pour l'éducation,
c'est parfait. Il faut le favoriser. Il faut le favoriser à tous les niveaux. C'est très très bien le sport professionnel. C'est magnifique de voir les ultimes qui sont des bestioles qui volent sur les eaux, qui coûtent très cher,
Formule 1, hein.
qui sont des vrais trucs de pros. C'est exceptionnel. Ouais. Mais et j'insiste là-dessus, à la Transat Café Laure, vous avez les pros avec les très très gros bateaux, mais vous avez aussi sur les classes 40 des types qui traversent l'Atlantique pour la première fois, des jeunes, vous avez quand même des équipages où le binôme il a 23 et 24 ans, des jeunes qui se lancent et je trouve ça très réjouissant parce que ça crée une ambiance un peu particulière où on n'est pas en adoration ou en admiration de pros qui sont quand même un peu inaccessibles parfois, même si personnes sont très sympathiques. Ouais. Et on voit aussi des gens qui sont un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, un peu plus fêlés quand même, parce que traverser l'Atlantique par ce temps, faut quand même avoir un grain.
Édouard Philippe, vous êtes un sportif, vous toujours. Je me rappelle quand vous étiez à Matignon, on parlait tout le temps. Hein, c'est un grand boxeur. Jérôme Le Banner avait dit.
Je suis grand par la taille.
Une bonne petite droite.
Ouais, je suis grand par la taille.
Ça c'était intéressant. Ça.
C'est vite dit. Philippe, vous êtes grand par la taille, c'est vite dit.
Ok.
Non, mais vous êtes.
Ça dépend sur quelle échelle.
Vous êtes dans les grandes gueules du sport. Le sport.
Non mais ouais, moi
ça reste important dans la vie d'un politique encore aujourd'hui.
Mais ça reste important dans la vie de tout le monde.
Vous allez à la salle encore?
Ouais, moi j'y vais. Je fais deux entraînements de boxe par semaine. En général, le lundi matin et le vendredi matin. Et puis quand je suis vraiment en forme, j'y vais une troisième fois. Mais
vous êtes allé ce matin?
Bah non, parce que vous n'avez pas échappé qu'on est samedi. On est dimanche. Là.
On est dimanche.
On est dimanche.
Mais les salles ouvertes le dimanche.
Ouais. Non, mais moi j'y vais le lundi matin et le vendredi matin. Parfois le jeudi. Enfin bon, deux entraînements de boxe par semaine. C'est pas mal déjà. C'est pas mal.
Grand fan du Havre, du HAC.
Évidemment.
Philippe. En fait, quand on est maire du Havre, de toute façon, on est.
N'oubliez jamais que le HAC sera à jamais le premier.
Oui, c'est un club doyen.
Il y a deux clubs français qui sont à jamais le premier. Ouais. Bon, le Marseille, évidemment, l'OM, par le palmarès, mais nous, par l'ancienneté.
Et vous avez quelque chose de commun, ce fameux bleu.
C'est vrai. Okay. Alors le nôtre est anglais. Vous savez, les deux couleurs du Havre, c'est Oxford et Cambridge. Mm-hmm. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on est le premier club français. Hein. C'est l'influence britannique qui s'est fait ressentir au Havre. Mm-hmm.
Je suis désolé de vous contredire, Monsieur Philippe, mais le premier club français à être champion d'Europe, c'est Limoges. Donc c'est pas Marseille.
Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. J'ai pas de problème. Mais en foot, quand même, je crois que c'est Marseille.
Ah ouais, en foot, oui. Mais après, on part d'être jamais les premiers.
C'est vrai, c'est
le basket.
17h15, Édouard Philippe. Auxerre, le Havre à suivre sur RMC. On est au départ de la Transat Café Laure. Édouard Philippe est avec nous, le maire du Havre, avant le départ de cette traversée de l'Atlantique à deux. C'est la route du café, on part du Havre pour aller jusqu'à Fort-de-France. C'est une course en duo pour traverser l'Atlantique, Édouard Philippe. Vous êtes toujours sur le même bateau avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Non, je crois pas.
Mais c'est un bateau à rames, je crois.
Écoutez, la fois où j'ai été avec quelqu'un et j'ai été le plus impressionné, c'était avec Charlie Dalin. Et avec Charlie, il m'a emmené faire une petite sortie en baie de Seine sur son Imoca. Je peux vous dire que quand le truc se met sur le foil et que vous commencez à démarrer, bah vous sentez l'accélération. Ça, j'aime bien ça.
C'est plus impressionnant que le foil d'Emmanuel Macron, quoi. Ouais.
Mais arrêtez.
Vous avez fait l'actualité. Et encore cette semaine, en appelant à une élection présidentielle anticipée après le vote d'un budget. Donc, vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le président de la République? On parle de course à deux, là, justement, on parle de duo, on a envie de savoir aussi. Vous avez été un des duos au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'état de vos relations avec le président?
Écoutez, elles sont assez éloignées, il faut bien reconnaître, parce que le président, il a beaucoup de travail. Et donc, je le vois pas beaucoup. J'ai dû le voir une fois en un an. Bon, est-ce que ça me rend malheureux? Non. Est-ce que ça le rend malheureux, lui? Non plus. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'à chaque fois que je le croise, ça se passe bien. Et que moi je respecte le bonhomme, je respecte la fonction surtout. Et puis je respecte l'homme, j'ai aucune. Après, il se trouve que je suis pas d'accord sur un certain nombre de décisions qu'il a prises et qu'il est en train de prendre. Ça n'empêche pas que pendant 3 ans j'ai travaillé avec lui et que j'ai bien aimé travailler avec lui. Moi, c'est pas parce que j'ai travaillé pendant 3 ans avec lui que je suis ensuite déterminé ou obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il fait jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà.
On a commencé par une réponse très locale. très normande, normande que je suis. Ah. Et on a fini par quelque chose d'un peu plus précis.
Fred, une question qui te tenait à cœur, je crois, sur le sport.
Oui, le sport, on sait que c'est hyper important. Et on a vu une étude qui disait qu'un euro investi dans le sport, ça économisait en gros socialement 13 euros. Je me pose la question, moi je souhaiterais qu'on investisse de plus en plus et les budgets sont en baisse par rapport au sport. Et je me pose la question, pour être politique, il faut détester le sport ou seulement ne pas savoir compter?
Mais d'abord, je vais vous dire, vous dites les budgets sont en baisse. Moi, je regarde l'essentiel des dépenses, à mon avis, en matière sportive, c'est des dépenses locales. Vous êtes d'accord?
Enfin, oui, oui. Bon.
Les dépenses locales, bon, en tout cas, je peux vous dire, hein, elles ne baissent pas.
Ça dépend où, hein.
Dans les régions, ils ont coupé les vivres.
Appelez votre consoeur de Nantes, par exemple.
Ouais, c'est pas la même chose.
Mais je suis pas sûr que si je l'appelle,
ce
dont je suis certain, c'est que c'est beaucoup d'argent, investissement dans les matériels, subventions aux associations, bien entendu, et c'est très bien, il faut le faire. Et il faut pas oublier un truc, c'est que le sport, c'est pas que les associations. Évidemment, c'est les associations, c'est la pratique en club. Mais si on cantonne le sport à la pratique en club, en fait, on cantonne le sport à un certain nombre de gens. Et l'idéal, à mon avis, c'est que le maximum de gens aient accès à la pratique sportive. Donc il faut développer le sport dans tous les domaines, pro évidemment, mais pas seulement, aider les associations,
pas seulement.
Mais ça participe aussi à l'attractivité d'un territoire. Quand on voit un événement comme celui-là, ça va bien au-delà du Havre ou de la Normandie.
Très très au-delà. Donc, je vous dis, on doit faire 600 000 personnes sur une semaine. C'est pas, y a pas que des Havrais, et heureusement, et c'est très bien. Mais en même temps, quand vous venez ici sur le village et que vous voyez les bateaux, c'est une pratique sportive limitée. Vous marchez un petit peu, parfois vous levez le coude, mais enfin, c'est pas non plus une pratique sportive exceptionnelle.
Faut bien reconnaître.
Merci Edouard Philippe, le maire du Havre, d'avoir été avec nous. On a compris que la dimension de fête était particulièrement importante.
L'échange avec la Martinique.
Dans cette tranche de café l'or.
Mais c'est important dans la vie.
Mais c'est le sport aussi.
C'est le sport aussi. Le plaisir du sport, c'est aussi ce qui se passe après. Évidemment.
La troisième mi-temps.
Merci Edouard Philippe. Allez, tout de suite, on va se rapprocher des embarcations justement parce que Pierre-Yves Leroux est en train de se rapprocher d'un des favoris. On est en ultime. Vous en parliez il y a quelques instants. Les monstres des mers, les grandes Formule 1, les grandes mécaniques. Je crois que tu es en train de te rapprocher d'Armel Leclerc et Sébastien Jos qui sont les tenants du titre, pile, c'est ça?
Écoute, je suis carrément installé dans le cockpit avec Armel Leclerc qui est à côté de moi. C'est un des plus beaux appartements qui va partir du côté de la Martinique. C'est une magnifique machine, vous le disiez. Les ultimes, les plus gros bateau. Armel, je vais pas te demander ta relation avec le président de la République, mais en revanche, à quoi on fait attention maintenant, là, dans les dernières minutes? Vous allez quitter le ponton dans quelques temps.
Ouais, bonjour à tous. Là, en fait, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Ça fait quelques jours là qu'on connaît un peu le menu du départ, hein, c'est-à-dire la météo des premières heures de course qui va être assez tonique. Donc voilà, l'équipe a bien travaillé ces derniers jours, on est prêt à partir. Sébastien va pas tarder, dans une heure on quitte le quai, donc là on essaie de mettre ses petites affaires en place, on va mettre notre tenue étanche parce que ça va un peu mouiller cette nuit et ça va être assez agité, et puis surtout d'abord sortir du port parce qu'on a une écluse à passer. Notre bateau est très grand, il fait 23 mètres de large, on aura 2 mètres de chaque côté, donc déjà essayer de ne pas faire de bêtises et prendre la mer tranquillement.
Voilà, et c'est vas-y Georges.
Sarah Pitkowski, une question pour Armel. Merci d'être avec nous, Armel.
Bonjour Armel, est-ce qu'il va y avoir des modifications dans vos choix de route avec ce qui s'est passé avec les trimarans cette nuit?
Non, on va pas forcément changer de stratégie. Par contre, c'est vrai que c'est une piqûre de rappel. C'est sûr que ça nous attriste tous ce matin d'avoir appris ces trois chavirages. Heureusement, les équipages sont sains et saufs, mais c'est vrai que c'est dommage de commencer comme ça. Et nous,
ça
nous
remet un petit peu. Ça incite à plus de vigilance pour vous?
Ouais, bien sûr, c'est ça. On va essayer d'être un peu plus vigilant, en tout cas, même si on le serait de toute façon, mais ça rappelle que effectivement la météo peut être violente. On sait que le vent va être soutenu cette nuit pour nous en Manche, notamment après la pointe du Cotentin. On attend des rafales à plus de 60-70 km/h, et c'est surtout ça qui est un petit peu compliqué de nuit, le vent qui monte d'un coup avec nos multicoques. Il faudra être vigilant pour éviter la grosse bêtise.
On est avec Armel Lecléage qui va partir de son ultime Banque Populaire 11 tout à l'heure avec Sébastien Jos. Alors Armel, on a beaucoup parlé toute la semaine du fait que vous alliez défendre votre couronne, vous êtes tenant du titre. Moi j'aimerais qu'on parle aussi à l'humain Armel. Armel, t'as pris de départ de plein de courses au large. Est-ce qu'il y a quand même toujours ce truc dans le ventre avant de t'élancer, ou c'est devenu un truc normal maintenant, c'est comme aller pointer le travail?
Non, je te rassure, c'est sûr que la dernière nuit on dort pas aussi bien que les autres nuits, surtout qu'on connaît la météo depuis 2-3 jours qui est un petit peu compliquée pour sortir de la Manche. Donc voilà, on se retourne un petit peu dans son lit avant de s'endormir. Et puis voilà, ce matin, même bon, l'appétit était quand même au rendez-vous au petit déjeuner, mais c'est vrai que voilà, on sera content demain matin quand on sera normalement, on aura passé la pointe bretonne et les conditions vont s'améliorer dans la journée de lundi, avant une nouvelle dépression au large du Portugal. Donc avec Sébastien, on va y aller par étapes. Mais l'habitude, en fait, c'est surtout là, l'expérience nous permet d'anticiper un peu mieux ces événements, de se dire qu'on a déjà fait ça, on a déjà affronté des tempêtes, des départs compliqués. Hein. Moi, je me rappelle mon premier Transat Jacques Vabre, c'était il y a 20 ans. Et avec Damien Foxel, mon équipier, on avait chaviré dans le coffre de Gascogne. On avait été élitreillé par la Marine nationale, donc c'est un souvenir douloureux, mais ouais, voilà, ça fait partie aussi de l'expérience qui nous permet de grandir et d'anticiper mieux ces événements.
Armel, il y a un truc dont on parle peut-être pas souvent. On est avec Armel Lecléache dans les grandes gueules du sport. C'est là, vous êtes au départ, on est au Havre. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Hein. C'est très populaire. Il y a de la musique. Il y a des fans qui sont là. Après, vous allez prendre le large. C'est grand silence. Alors, il y a le bruit de la mer, évidemment. Mais le contraste sonore quand on quitte la terre, c'est un truc quand même qu'il faut que nous, terriens, on comprenne un peu aussi pour vous.
Ouais, c'est sûr qu'il y a un contraste parce qu'on va se retrouver tous les deux sur notre bateau là pendant à peu près 12-13 jours de mer, avec finalement comme seule présence humaine, ça va être quelques oiseaux, quelques poissons qu'on va croiser, peut-être quelques bateaux, mais ce sera très très rare. Ce qui va nous changer vraiment la brutalité de la transition, c'est tout à l'heure quand on va prendre le départ et qu'on va s'élancer avec nos machines. On va aller très très vite, hein. Dès le début on va être à plus de 35 nœuds, 40 nœuds sur le petit parcours spectacle avant de prendre le large. Voilà, c'est comme un départ de Formule 1, j'imagine, où on est pendant quelques heures un peu tranquille et puis d'un coup on part à 300 km/h. Bah, nous ça va être un peu ça. Il va falloir vraiment tout de suite rentrer dans le jeu, dans le match. Et puis ça va durer 2 semaines. Donc c'est ça qui est compliqué. Prendre le rythme à bord. Ça fait quand même 10 jours qu'on est ici au Havre à faire beaucoup de sollicitations avec des partenaires, avec les médias et le tout public très nombreux. Et puis maintenant, bah, il va falloir se mettre dans la course. Ouais.
Voilà, on a bien compris, Armel. Prends ça, Max Verstappen. Nous, on fait une course Formule 1 de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Et alors, c'est nous les grands. Merci, Armel, d'avoir été avec nous. Évidemment, on s'en privilégié de t'avoir. Armel, est-ce que tu es sur Banque Populaire 11? Tu vas partir avec Sébastien Josse sur votre ultime. Vous êtes les grands favoris. Vous êtes les tenants du titre. Merci, Pierre-Yves. Évidemment, on continue de se balader avec toi hein, sur le départ de cette Transat Café L'Or qui va être donnée à 14h tout à l'heure. On est avec Sarah Pitkowski. On est avec Jérôme Pinault. Fred Weiss.
On embarque quand nous?
Tu partirais avec qui d'ailleurs? Plutôt avec Fred ou avec Jérôme?
Ouais. Attention, ce que
on vient des deux. Je tiens ma vie.
Ça serait
bien. Tiens, dans quelques instants. On n'est pas en cliché du tout.
Pas du tout.
On devrait envoyer Renaud, je pense, avant la fin de l'émission aussi. Dans quelques instants, le vestiaire. Tiens, peut-être que tu voudras partir avec l'un d'eux, Johan Richaume et Corentin Euro, les skippers de Papré Carquea qui vont prendre le départ.
Là, je suis un peu plus rassuré si je pars avec eux.
Justement, on va se poser la question avec eux. Comment créer une cohésion d'équipe? On vous attend dans quelques instants pour la deuxième heure des grandes gueules du sport. Nous ensemble jusqu'à midi. À tout de suite sur
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport en direct du Havre.